blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
Non, ce n'est toujours pas Solène Etienne au micro, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est moi qui ai l'immense plaisir aujourd'hui d'échanger avec Morgane Ohana. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Tu es la cofondatrice de Defacto. Et tu as une mission, soutenir les PME en Europe, et ça tombe bien, des PME en Europe, il y en a beaucoup, et elles ont besoin de soutien. Donc ensemble, on va se plonger dans votre univers, et essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans la femme derrière l'entreprise, si tu le veux bien.
Avec plaisir.
Sans bullshit.
Ouais, avec plaisir.
Eh ben, pour démarrer, je t'ai demandé de choisir une musique pour me parler de Defacto et tu m'as choisi quelque chose. Alors, tu vas l'expliquer très bien, mais on l'écoute et je pense que sans avoir annoncé le nom de la chanson, on va très vite deviner le titre.
Le pourquoi, ouais. Exactement.
Tu peux chanter. Hein.
Il va commencer à pleuvoir.
Eh bien, on l'attend tellement là. On tourne en pleine canicule. Ah, tu m'as dit que ça, c'était la musique Defacto.
Voilà, exactement. On aime beaucoup le jaune et le noir.
Et
donc, nos couleurs. Et donc, de manière très simple, on a choisi Black and Yellow.
Et donc, ça, c'est la musique qu'on entonne à quel moment dans la vie de la boîte ?
On l'a entonné avant de mettre notre premier déploiement à payer. On l'utilise pas mal, release d'une nouvelle feature, test en prod, on l'utilise à plein de moments de la vie de la boîte. Quoi.
On oublie souvent de fêter les petites ou les grandes victoires dans la vie entrepreneuriale. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur.
Oui, après, c'est vrai qu'on... même si ça nous tient à cœur, on réalise à quel point on le fait en fait très peu. Et donc en mettant une musique, en essayant de créer des instances, etc., ça nous rappelle de le faire en fait. Parce qu'on se dit oui, c'est important de le fêter, personne va dire le contraire.
Ouais.
Et après, on est pris dans la machine du quotidien et puis on oublie les victoires.
Alors, on va soulever le capot pour découvrir la machine au quotidien Defacto. Concrètement, aujourd'hui, ça, quand j'ai parcouru ce que vous faisiez, moi je vous connaissais de nom, j'avais jamais utilisé la solution et en préparant un peu notre échange, j'avais le sentiment qu'il y avait trois offres et en fait non, c'est une offre complète à destination des entrepreneurs.
Exactement. En gros, de manière très simple, donc Jordan, mon associé, et moi-même étions chez Spendesk et on travaillait avec des PME au quotidien. Et quand on a commencé à sortir un peu de Paris 9, du monde ultra-financé, en fait, on se confrontait à pas mal de problématiques de trésorerie. Des entreprises qui nous disaient « j'aimerais beaucoup utiliser Spendesk, c'est une super solution, mais j'ai pas le cash pour dépenser aujourd'hui, j'attends... »
Est-ce que vous êtes rencontrés donc chez Spendesk. D'ailleurs, je l'ai pas dit en introduction, mais t'as été choisi comme Sista par Rodolphe Ardan, donc un des cofondateurs et dirigeants de Spendesk.
Exactement. Donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Rodolphe et Jordan assez tôt dans l'aventure. Je suis arrivée, j'ai été mise en relation avec Rod et Joe. J'avais pas de scorecard. Je sortais du conseil, donc je savais pas faire grand chose à part des Excel et des présentations PowerPoint. Et on m'a pris sur un rôle un peu flou qui était un rôle de couteau suisse. Et assez rapidement, j'ai monté l'équipe partenariat chez Spendesk.
Je reviens du coup sur Defacto.
Voilà.
Donc un enjeu, un sujet de trésor pour des milliers, voire des millions
de PME. Exactement,
oui.
Qui sont bloqués par deux choses principalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la distribution. En fait, le monde du prêt est un monde à marge très faible, Et donc, elle est distribuée en direct à chacune de ces PME, et est une opération qui est très peu rentable, en fait. Si on prend le coût du risque, etc., c'est très compliqué. C'est la première chose qu'on réalisait qui bloquait ces PME aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est le scoring. Si on va scorer une ETI, une boîte du CAC 40, souvent, bah, ces données d'année en année vont se ressembler et donc prendre 3 ans d'historique.
Ça suffit.
Ça suffit, ouais. Ça suit. En fait, pour une PME, même une boîte qui a été créée à 4 ans, ben.
C'est plus complexe.
C'est plus complexe. J'imagine que Feuille Blanche ne ressemble pas, aujourd'hui,
c'est pas. Feuille Blanche, il y a 2 ans.
Ouais, au Feuille Blanche, il y a 2 ans.
Je te confirme.
Et donc, en fait, les modèles traditionnels de scoring, prennent pas en compte ces évolutions, ces ajustements, et prennent de la donnée assez historique, quoi, à 18 mois, parfois même dans le passé. Et donc, nous, en essayant de changer l'accès à la donnée, de changer ce paradigme, ben, en fait, on a accès à une donnée beaucoup plus fraîche, beaucoup plus récente.
On va revenir sur ce que vous avez craqué, comment vous l'avez craqué. Mais du coup, aujourd'hui, il y a 2-3 grosses utilisations de Defacto pour une PME.
Exactement. Donc aujourd'hui, donc Defacto est une API de crédit. On travaille avec des marketplaces principalement et des fintechs et quelques PME en direct. Et l'idée finalement, c'est qu'une PME souhaite soit financer ses achats, soit encaisser ses créances clients plutôt, et donc peut par le biais de ses outils au quotidien le faire avec Defacto bien sûr.
Donc il y a cette première marche qu'il a fallu craquer, gravir, peu importe comment on le dit, mais de pouvoir déployer plus facilement la solution. Donc ça, du coup, je l'entends que ça passe par des marketplaces.
Et des fintechs.
Et des fintechs.
Exactement. Ces marketplaces, en fait, une de nos croyances de fond, c'est que les PME vont de plus en plus s'équiper. Soit vont acheter sur des marketplaces spécialisés, soit vont utiliser des fintechs, bah, typiquement pour prévoir leur trésorerie, pour gérer tout leur quotidien. Et donc, en fait, il y a toute une nouvelle donnée, toute une nouvelle canal de distribution, en fait, qui s'est ouvert ces quelques dernières années.
Et il manquait la brique financement.
Et il manque la brique financement, exactement.
C'est comme ça que vous êtes arrivé.
Exactement.
Un exemple très concret, je crois que vous bossez avec Malte.
Exactement.
Je trouve ça intéressant d'avoir des case studies,
donc très concret.
Pour projeter les auditeurs.
Bien sûr, donc dans le cas de Malte, il faut se dire qu'il y a des freelances d'un côté qui vont bosser avec des grands groupes. Un grand groupe de base paye 60 jours après la fin de la mission.
Ça, c'est sur le papier.
Voilà, sur le papier. Et il suffit que la mission soit un peu longue. Et en fait, un freelance peut se retrouver à être payé 5 mois plus tard. C'est des gros trous de trésor, c'est des gros décalages. Et donc, une des valeurs de Malte est de payer les freelances à la fin de la mission ou même plus tôt. Et aujourd'hui, ils font ça avec Defacto.
Donc ça, c'est le premier sujet qu'il a fallu craquer. C'était quoi le
scoring.
Ouais.
Scoring est le nerf de la guerre dans cette industrie. Puisque c'est une des seules industries où on peut gagner et perdre énormément d'argent, en fait.
Et si tu prêtes à des gens qui ne rembourseront jamais, tu y perds.
Exactement. Sachant qu'on veut toujours prêter à des bons prêteurs.
Oui.
Et il faut déjà définir ce qu'est un bon prêteur. Et savoir bien les identifier. Et donc, le parti pris aujourd'hui, le parti pris traditionnel,
c'est... Quand tu parles, pardon, on prête aux bons prêteurs, c'est pour aller chercher les fonds.
Non, c'est tout simplement, on essaie d'avoir d'identifier au-delà de, aujourd'hui, si vous voulez, les critères, c'est une grosse boîte est un bon prêteur, une petite boîte est un mauvais prêteur.
Ok.
Voilà, c'est un peu ce qu'on voit un peu, et en fait, c'est plutôt de dire, c'est les comportements de cette boîte qui font que c'est des bons ou des mauvais prêteurs, ce qui paye et rembourse à temps, ce qui paye tous leurs fournisseurs à temps, etc. Et donc, pour nous, c'est hyper important d'identifier ces bons prêteurs-là et pour eux de faciliter l'accès au financement, peu importe leur taille, peu importe leur date de création.
Tu partages la secret sauce ?
On a une grosse équipe en G. Non, la secret sauce, c'est vraiment l'accès aux données. Tout se joue sur l'accès aux données. On a, grâce à nos partenariats, donc typiquement avec Malte, typiquement avec d'autres fintechs, en fait, on a accès, avec l'accord du client, bien sûr, à toutes leurs données historiques granulaires et non agrégées. Et ça, en fait, nous permet de voir exactement les comportements des gens en real time, quoi.
Comment on passe du monde de l'Excel et du PowerPoint au monde de la data ?
Il faut en parler à mon CTO. La base, c'est construire la bonne infra pour qu'on puisse absorber toutes ces données. C'est des données vachement différentes. Et après, c'est les bonnes équipes derrière, quoi.
Dans les actus relativement récents, donc il y a une seconde levée,
une
série A de 15 millions, si je dis pas de bêtises, avec Northzone, mais pas que, ouais.
Et Headline.
Qui étaient les deux fonds qui étaient là depuis le début.
Exactement.
Ouais. Et aussi une grosse, alors ça c'est en equity, mais une grosse partie en dette.
Exactement.
De 25 millions.
De 25 millions avec Viola, ouais. Un fonds israélien.
Premier investissement pour eux en France.
Exactement.
Ouais, là, je suis bien renseigné. Hein. Comment on va les chercher?
Ah, c'est compliqué ça.
Ouais.
Ça c'est la vraie secret. Non. C'est un long procédé. Ouais. Quand on se lance dans le milieu du lending, il y a le sujet de poule et l'œuf. Les gens veulent pas prêter de l'argent tant qu'il n'y a pas d'historique. Et il n'y a pas d'historique tant qu'on n'a pas d'argent.
Ouais.
Donc, la manière dont on allait chercher Viola, c'est qu'on a démarré par emprunter de l'argent à des BA. On a créé un premier tout petit fonds de dette en se lançant avec des gens dans notre réseau, des gens qui avaient bien réussi, qui nous faisaient confiance.
Pour montrer que c'était possible.
Pour montrer que c'était possible. Pour montrer l'historique. Mmh. Et ensuite, on a eu assez de prêts qui ont tourné pour aller chercher des plus gros fonds de dette.
Il y a un sujet autour du réseau, du coup, quand même, quand on se lance sur des projets aussi ambitieux.
On a eu pas mal de chance et de facilité grâce à ça sur le réseau, sur la dette et la régulation, qui sont deux sujets.
Beaucoup d'entrepreneurs qu'on réussit parlent de chance, mais il y a quand même un débat sur ce qui est vraiment la chance. Est-ce qu'on la provoque? Est-ce que ça tombe comme ça? Je suis pas sûr que ça tombe comme ça non plus.
Ah, je suis pas sûr que ça tombe comme ça, mais parfois il y a de la chance.
C'est un mélange de.
Il y a de la chance. C'est un mélange de, je pense, de momentum, de savoir saisir les opportunités. Et puis, parfois, de
la bonne rencontre,
la
au,
bonne
bon
rencontre
moment,
au bon moment, bon la timing, bonne décision, ouais. Sans forcément rationaliser. On peut tout post-rationaliser, mais parfois, il faut dire ce qu'il faut dire, il y a de la chance.
Tu parles de décision, c'est quoi la décision courageuse et fondatrice importante que vous avez prise avec tes associés qui explique pourquoi vous en êtes là aujourd'hui?
Je pense qu'une des décisions, je ne sais pas si elle est courageuse, mais elle est plus à contre-courant de la plupart des boîtes qu'on voit aujourd'hui, c'était de garder une petite équipe. Donc,
La première levée, même après,
toujours,
ouais.
Depuis toujours. Donc, on a construit Defacto avec l'idée d'être de garder en fait une équipe réduite assez senior. Donc, on est 14 aujourd'hui, ce qui est assez peu en fait pour une boîte de notre, je dirais, par exemple la levée. Et c'était courageux. Au tout début, quand on cherche à recruter, tout le monde veut être manager. Et quand on annonce.
Head of
quelque chose. Et quand on annonce qu'en fait, il n'y a pas d'head of, il n'y a pas de manager et qu'en fait, on va garder une équipe assez flat, et ben, en fait, on se coupe 90% du marché, quoi.
Ah ouais? Sur les talents?
Sur les talents au tout début,
ouais. C'est une question d'ego.
Je sais pas si c'est une question d'ego. Je pense que les gens sont drivés par des choses différentes.
Ouais.
Et qu'il y a des gens, le prestige, le pouvoir d'avoir une équipe. Et quelque chose qui les motive. Sans connotation négative. Hein,
non, mais où ils pensent au coup d'après en se disant...
Exactement,
j'ai pas été head of...
Exactement. Ou alors, j'ai jamais managé des gens.
Ouais.
Et je veux voir ce que c'est de gérer des gens au quotidien. Et donc, c'était une décision qu'il fallait...
Assumer.
Et qu'il fallait assumer, qu'il fallait tenir.
Et alors, du coup, super intéressant comme approche. Ça a plein de vertus que je vois très bien. Mais du coup, comment on va embarquer ceux qui vont croire dans le projet, au-delà du rôle qui, en plus, j'imagine, au fil des ans, sur des équipes réduites, avec des ambitions comme ça, peut être amené quand même à vachement évoluer. Il y a des couteaux suisses qui adorent ça.
Bien sûr. Je pense que ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait une certaine cible, une certaine typologie de personnes qui avaient vécu la scale-up, qui avaient vécu l'hypercroissance, qui avaient géré des équipes et qui voulaient retourner à être des contributeurs individuels sans équipe. Et donc, c'était la première étape, c'était un peu en fait identifier qui était notre niche, en fait. Comme il y a une niche chez les clients, il y a une niche chez les candidats. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, il y avait ça, il y avait construire des relations avec eux sur le long terme. 80% des gens qui ont rejoint Defacto nous ont dit non. Au tout début.
Ah, j'adore.
Et en fait, il faut pas lâcher, quoi.
Ça, vous êtes allé les rappeler en disant, non, mais vraiment,
ouais, on les a rappelés 2 mois plus tard. Et en fait, c'était un peu, c'était une stratégie sur le long terme. On voulait vraiment recruter des personnes et non des rôles. Et donc, en fait, on a gardé ces personnes en tête jusqu'à qu'ils nous disent oui, quoi.
Il y a quand même des projets de recrutement, d'étoffer l'équipe ou
On va être assez light. Donc, on sera, je pense, 18-19 d'ici la fin de l'année, quoi. Donc, on grossit.
C'est de l'hypercroissance à votre échelle, du coup.
C'est de l'hypercroissance à notre échelle. Et on essaye de vraiment au maximum d'onboarder une personne par mois, par 6 semaines, quoi. Histoire que ça soit bien intégré.
Avant les premières recrutées, il y a les associés. Comment on se marie? Comment on s'embarque les uns les autres dans un projet comme celui-ci?
J'ai pas mal d'amis entrepreneurs. Et donc, tout le monde a une manière différente de le faire. Mais pour nous, encore une fois, j'avais de la chance de, j'avais rencontré Jordan. Et donc, Jordan était le pilier et avait mis en relation donc Marco et moi. Jordan, je le connaissais bien. J'avais travaillé avec lui par le passé. Et donc ça s'est fait très naturellement. Il savait que je cherchais à monter un truc, il voulait remonter quelque chose, et donc ça s'est fait assez organiquement. Et en fait, Marco était un bon ami de Jordan, et donc ça c'est vraiment, je dirais encore une fois, ça a été vraiment de l'opportunité, ça a été assez organique.
Quand tu dis j'avais envie de monter quelque chose, tu peux parler des projets qui sont restés à la corbeille?
Ouais, bien sûr. On avait pas mal de sujets. On avait un sujet de candidat de CRM pour recrutement. On utilisait un ATS chez Spendesk et je trouvais que l'expérience de recrutement était très axée process et pas personne, candidat. Et qu'en fait, il y avait quelque chose à faire pour remettre un peu le candidat au cœur des process de recrutement, quoi.
Tu dis « on », c'était déjà...
On s'est associé d'abord avant de trouver l'idée, quoi.
Écoute, c'est très drôle. Ça me rappelle une autre sista avec qui on a eu le plaisir d'échanger, Eleonore Crespo, je ne sais pas si tu la connais, qui a fondé Pigment avec Romain Nicoli. Et eux, c'est pareil. Ils se sont dit on a envie de faire quelque chose, on a envie de le faire ensemble et réfléchissons. Ça a pris quelques mois, ouais.
Exactement.
Exactement.
On a pris le même angle. On a un peu décidé ce qui était important pour nous. Au-delà du sujet, je pense que c'est important de s'aligner avec ses associés sur le type de boîte qu'on veut monter. Donc nous, typiquement, petite équipe, c'était très fort chez nous. B2B, c'était très fort. Être dans une problématique qui existe, pas créer une catégorie, et une problématique qui existe aujourd'hui, le financement des PME, c'est compliqué.
Et donc, il y a plein encore un boulevard et on va arriver avec une autre approche.
Exactement. Et donc ça, c'était un peu des choses qui étaient importantes pour nous et voilà.
De facto, la marque.
De facto, la marque.
Pourquoi?
Le journée.
Comment? déjà, le nom.
Le nom, la vraie histoire ou la fausse histoire?
La vraie.
La vraie.
Attends, commence par la fausse et comme ça, après, on compare. Ce que vous dites aujourd'hui à vos clients.
Ce qu'on dit aujourd'hui à nos clients, c'est que il y a un jeu de mots sur le, il y a un jeu sur le factoring.
Exactement. Oui.
Donc, de facto, on change un peu les choses. La vraie histoire, c'est que c'est venu dans un des rêves de Marco. Marco a des eureka.
J'adore.
il a rêvé. Un jour, il s'est réveillé, il a dit, c'est de facto. Et tout le monde a dit OK, et voilà.
Et dans son rêve, il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'on peut être head off? Il disait non.
Non, et voilà.
De facto, on n'ira pas plus.
Exactement, c'était son rêve. Et voilà.
Ah, j'adore. Écoute, je la ressortirai parce que je trouve ça génial. Et du coup, maintenant, toutes les nouvelles features, tous les projets de la boîte dépendent des nuits de Marco.
Dépendent des vacances et des nuits de Marco, exactement.
Il faut l'envoyer tout le temps en vacances.
Ah, mais on essaye au maximum. Ouais.
Donc lui, c'est la nuit. Toi, tu les trouves à quel moment, tes idées?
Moi, je les trouve aussi à des moments de break. C'est-à-dire que dès qu'on fait des pauses, en fait, c'est pas forcément la nuit. Dès qu'on a des pauses de 1 ou 2 jours, on arrive à prendre du recul, ressortir la tête de l'eau. Et en fait.
Ce que tu appelles des pauses de 1 ou 2 jours, c'est genre ce que certains appellent le week-end? C'est que vous faites? j'avais un mot pour ça. des fois, vous dites, là, on fait deux jours off pour.
Non, c'est plutôt le week-end, mais il faut pas y penser le week-end, en fait. C'est plutôt ça. Je trouve que la difficulté quand on est entrepreneur, c'est qu'on y pense tout le temps. Que ce soit le week-end, la semaine, ça ne veut pas dire qu'on travaille, qu'on n'y pense pas. Et donc, il faut intentionnellement faire autre chose. Donc, faire du sport, voir des amis, se distraire pour...
S'inspirer. Respirer.
Non, parce que si on devance tout, à un moment, moi, j'ai plus de séquences, c'est
je
pas
parle
grave.
Trop vite.
Non, pas de problème. Non, mais on peut réadapter, on le fait bien dans l'ordre qu'on veut. Mais du coup, je reste là-dessus, ce besoin de prendre du recul en tant qu'entrepreneur.
Ouais. Je pense que c'est assez difficile d'être dans la machine du quotidien, s'assurer surtout au tout début, est-ce que ce candidat va me dire oui, est-ce que ce client va me dire oui, est-ce que ça va passer. Donc en fait, on est vraiment dans des problèmes très concrets, très terre à terre. Et en même temps, il faut réussir à lever le tête et voir un peu à 6 mois, 9 mois où est-ce qu'on se dirige.
Mais sans ça, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prise de recul.
Exactement. Et on construit des petites choses et pas forcément quelque chose dans la durée. Et donc on essaye par plusieurs manières de vraiment faire des breaks. Donc soit c'est le week-end, mais soit intentionnellement essayer de se retirer du quotidien. On part les fondateurs ensemble 2-3 fois par an.
Ce que j'allais te demander, j'ai dit, il y a quelques équipes de fondeurs comme ça qui partent à la montagne ou à la mer ou
exactement
ou ailleurs d'ailleurs.
Ouais, exactement. On part nous pour l'instant à côté de Paris, donc c'est moins
c'est plus près.
Mais le but c'est vraiment de partir, d'être un peu en espace clos et de pouvoir discuter de choses qu'on oublie de discuter au quotidien, quoi.
C'est quoi, vous prenez Airbnb et puis
exactement.
Parce que du coup, je pensais là notamment aux deux cofondateurs d'Open Classroom, eux, ils vont vraiment à la montagne. Et ce qu'ils disaient, mais peut-être vous l'expérimenterez un jour et tu m'appelleras et tu me diras, mais que alors c'est une métaphore, mais cette idée d'avoir un horizon en face, un vrai horizon, d'avoir un champ de vision loin, leur donnait vraiment aussi de l'horizon dans leur réflexion.
Ah, d'accord.
Voilà, je te le partage.
Je sais que Jordan insiste pour partir à la montagne. Voilà. Donc voilà. Il lui manquait un dernier argument pour qu'on
Je te rajoute un argument, c'est que parfois on rêve mieux à la montagne.
c'est bien pour Marco, donc voilà. C'est bien. Super.
Tu parlais de l'importance des amis. Mais comment tu vas chercher, à défaut de l'inspiration, mais ces moments de...
Je fais pas mal de sport.
Ouais.
Tout sport en extérieur, je suis fan et preneuse, et donc c'est ce que je fais pour un peu respirer.
Il y a un sujet quand même, tu le disais, hein, a fortiori quand on est au début d'une boîte, à ne faire que ça, voire même à faire des gros renoncements amicaux, familiaux, sportifs. De tout oublier, voire même de s'oublier. Ça, c'est quelque chose que vous avez posé aussi en tant qu'associé, ce besoin à un moment pour chacun.
On l'a posé assez clairement au début. On avait parlé à pas mal d'entrepreneurs qui avaient bien réussi et qui nous disaient la ressource la plus rare au début, c'est toi et ta santé mentale. Et donc, fais tout pour la protéger. Il n'y a pas de boîte, en fait. Quand on n'est que trois, y en a un qui tombe, il n'y a plus de boîte, quoi. Donc, on a étouffé pour essayer de la protéger, tout en étant réaliste que c'est plus difficile qu'être salarié, quoi.
Il y a des horaires particuliers, des rythmes.
Exactement.
On parle peu de la santé mentale des entrepreneurs.
Ouais.
Non, c'est vrai, j'en parlais encore à midi.
D'accord.
Que c'était un sujet sur lequel même les entrepreneurs, et pour plein de bonnes et ou de mauvaises raisons, n'allaient pas.
Bah, je pense que c'est juste, il y a pas mal de pression, il y a pas mal de responsabilités, surtout quand on commence à avoir des salariés. Et donc, il faut réussir à trouver les moments où on arrive à respirer. Son équilibre, quoi. Ce qui n'est pas forcément juste de travailler de 9h à 5h, hein, c'est chacun son équilibre.
Sur les inspirations, si toi tu devais nous inspirer avec un livre, un film, une expo, un docu, un spectacle, est-ce qu'il y a quelque chose que...
Moi, je suis une grande fan des périodes difficiles.
Ça veut dire quoi ?
J'aime bien, d'abord je me suis pas... J'aime bien les grandes guerres. Je trouve que c'est assez intéressant sur pas mal d'angles. Et donc, je conseille le Musée de la Libération à Paris, qui est un des derniers musées que j'ai fait. On connaît très peu la Libération Paris. Et donc, n'a rien à voir avec, avec des facteurs, mais si, c'est une expo.
On s'en fout.
Voilà, c'est le Musée de la Libération de Paris.
Mais qu'est-ce qui, toi, t'intéresse dans ces grands moments semi-tragiques ou en tout cas historiques ?
C'est plutôt ce qu'on... La plupart des gens, des témoignages, etc., tout le monde disait qu'ils sont bien ou mal comportés, hein, qu'ils n'auraient jamais pensé a priori se comporter de cette manière-là. Et je trouve ça assez intéressant de voir quand...
C'est dans l'action.
Ouais, quand
on se révèle.
Ouais, exactement. et qu'a priori on ne sait pas.
Est-ce que des fois tu t'es révélé à toi-même sur certaines décisions, certaines prises de position?
Je pense que c'est dur de le voir pour soi-même. Donc je suppose que oui, mais j'arriverai pas à identifier un moment quoi.
Alors on a réinterverti complètement l'ordre des rubriques. Mais moi j'aimerais t'interroger sur les premières fois. Il y a une musique pour tout.
Il y a une musique pour tout, c'est bien.
Quoi que tu dises, j'ai mon petit piano, là, je suis prêt
c'est
à rebondir.
C'est quoi la musique de Feuille Blanche, alors?
Feuille Blanche. Tu vois?
Sobre. Pragmatique, sobre.
Ouais, efficace.
Efficace, straight to the point.
Donc, on était sur les premières fois. Premier apprentissage, Morgane.
Premier apprentissage. Il y a un angle spécifique non. à l'apprentissage ?
C'est volontairement
C'est large. Volontairement flou. Premier apprentissage... je ne sais pas si c'est premier apprentissage, mais c'était ce que j'arrêtais. Donc, j'ai fait quelques années en conseil. Et en fait, je suis arrivée avec des a priori de sujets qui m'intéressaient. Je voulais travailler pour le secteur public. Je voulais travailler... je travaillais principalement à CASA, et donc sur le continent africain, sur des sujets de croissance. Sujet d'agriculture. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des thèmes qui nous intéressent, mais que ce qui fait vraiment la différence, c'est les équipes avec lesquelles on bosse. Une de mes projets préférés du BCG, c'était un projet de compliance pour un gros groupe bancaire français. Ce qui était quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire.
Instinctivement, ouais.
Instinctivement, c'est pas ma personnalité. Et donc, c'est plus l'équipe avec laquelle on bosse qui fait que moi, je m'épanouissais au quotidien que le sujet précis.
Ça, typiquement, c'est un apprentissage pour la suite.
C'est un apprentissage pour la suite. J'ai fait de la gestion de dépenses chez Spendesk. Je ne pensais pas non plus que ça allait me fasciner. Et bien, j'étais. En fait, on bosse avec des gens qui sont motivés, qui sont ambitieux, qui sont résilients. Et en fait, c'est ça qui crée, en tout cas, qui m'a créé pour moi de la motivation au quotidien, quoi.
Là, tu parles d'ambition. Y a un vrai sujet sur c'est quoi être ambitieux. Mm-hmm. C'est quoi la belle ambition?
Il y a plein de buzzwords et de quotes, mais pour moi, c'est juste toujours essayer de. C'est juste toujours essayer d'aller plus loin, toujours. La manière dont on le voit aujourd'hui, c'est juste ne pas accepter le statu quo et pas se laisser. Et puis savoir continuer à se battre au quotidien, quoi.
C'est l'idée que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça.
Exactement. Et c'est pas parce que les gens ils vont dire non que c'est non. Ils vont exactement. Il faut pousser, quoi.
Tu parles du non. Premier renoncement.
Mon permis.
T'as pas le permis?
Je l'ai eu. Si, je l'ai eu après.
Très longtemps après.
Je l'ai eu très longtemps après.
Quel âge?
Je l'ai eu à 23 ans.
Ça
en
va.
Suisse, c'est compliqué. Non, mais en Suisse, c'est un parcours du combattant.
C'est moi, j'habite à Paris, je l'ai eu au moins 10 ans après.
D'accord.
Ouais. Ça te rassure.
Ah, je me sens
mieux. Pire,
il y a toujours pire. Il y a toujours pire.
Mais en Suisse, tu peux pas ne pas avoir le permis, c'est ça?
En Suisse, tu peux pas avoir le permis. Et si tu loupes 3 fois, tu dois aller chez un psy.
Vraiment?
Ouais.
Non.
Si. Donc la 3e fois, tu.
Et tu l'as raté 3 fois?
Je l'ai raté une fois et après la deuxième fois je l'ai repassé bien plus tard. Je l'ai raté une fois de plus et la troisième fois j'ai tout donné. Quoi.
Et tu connais des gens qui sont les chocopsies?
Ouais.
Et
en fait
ils challenge quoi?
Ils challenge la capacité de la motricité un peu. Donc en fait il y a des gens qui traversent. Je pense qu'en Suisse ils considèrent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas physiquement conduire. Qui n'ont pas les bons réflexes, quoi. Et ils disent, il y a quelqu'un qui traverse, est-ce que j'accélère ou je...
Oui, non, mais en fait, quand tu accélères sur un piéton, il y a un sujet psychique.
Voilà,
il y a un sujet psychique.
Exactement.
Mais c'est pas pour ça que t'as pas eu le permis ou alors...
Non, la peur d'aller chez le psy et de devoir révéler ça.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous?
Si tu veux, on parle de toi. Je l'ai dit, hein, tu as un long passage en Suisse, tu es né aux États-Unis d'un père marocain, d'une mère sud-africaine, si je dis pas de bêtises. Où es-tu chez toi?
Un peu partout. Partout. Ici à Paris, en Suisse. Là où je voyage, je pense que on est chez toi, on est chez soi, là on décide qu'on est chez soi, quoi.
Ça a forgé la petite fille, puis la femme que tu es devenue. Ce melting pot, ce mélange.
Je pense que ça forge une certaine capacité d'adaptation. À se faire de nouveaux amis, à s'intégrer à nouveau, à changer, à devoir s'ouvrir aux autres. Et donc, je pense que...
Parce que pas le choix.
Et je pense que c'est une force, la capacité d'adaptation.
T'as des... Non, c'est pas tout à fait ça, parce que t'as pas fait 20 000 pays non plus, hein, mais t'as cette idée aussi de certains expats qui, à un moment... Tu es plus prêt à redonner parce que tu sais que tu vas perdre. Tu vas dans les contacts que tu vas te créer. Et à l'inverse, quand tu arrives quelque part, les autres se disent bien de sûr. Toute manière, il va repartir.
Un peu moins. J'ai pas. C'était moins une vie d'expat qu'une vraie vie quand
à l'étranger.
Ouais. Donc c'était moins une vie d'expat. Par contre, je pense que t'es plus prêt à intégrer des nouveaux. Que quelqu'un qui a toujours vécu dans la même, parce que toi-même t'as plus d'empathie, quoi, quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui bah cette force, tu sais ce que c'est, t'as été cette personne-là, quoi,
d'être le petit nouveau. Ouais, à l'école c'est jamais bien vu d'être le...
C'est jamais bien vu, mais après ça il y a toujours un nouveau. Il y a toujours quelqu'un qui arrive après, quoi.
Et puis dans tous les cas ça forge.
Exactement.
Qu'est-ce que t'as gardé de ton enfance qui a, je reviens là-dessus, hein, mais qui a fait de toi la femme que t'es aujourd'hui?
Je pense qu'il y a plein de choses.
Là, on ferme les yeux, c'est le moment.
Je pense qu'il y a plein de choses. Si mes parents, ils m'écoutent, ils vont être, je sais pas à quoi ils vont s'attendre. Non. Non, je pense que c'est vraiment cette idée qu'il faut toujours aller de l'avant, quoi. J'ai grandi avec une éducation qui disait no matter what, the show must go on, et peu importe ce qui se passe, en fait, tant qu'on avance, et ben c'est déjà ça de gagner, quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus gardé de mon éducation.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on fait table rase et on marche
sans forcément faire table rase, quoi. Il faut juste marcher. Si on n'a pas les mêmes problèmes aujourd'hui qu'on avait hier, c'est déjà ça.
Eh ben écoute, ça me fait presque une transition parfaite pour la question de Rodolphe.
Vous avez un message.
Morgane, avec ce que tu as pu vivre justement, et je sais que lorsque tu avais démarré ta carrière, tu te posais beaucoup de questions sur qui tu avais envie d'être, ce que tu avais envie de construire, un peu en minimisant les prises de risque que tu pouvais avoir. Si tu te parlais à la Morgane d'il y a 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle démarre sa boîte immédiatement?
Je pense qu'en fait, c'est juste que c'est possible. Quand il y a 8 ans, il y avait...
Tu peux te parler à toi-même.
Je peux me parler à moi-même. Non, mais c'est qu'il y avait pas de... Il y avait moins d'exemples. La tech, mine de rien, en fait, est plus... plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y avait il y a 8 ans. Quand moi, je me suis lancée, tout le monde allait en conseil, quoi. Et je voulais voyager, je voulais voir autre chose. Et le conseil, c'était... idéal, et je voulais apprendre des nouvelles choses, quoi. Et je pense juste qu'il n'y avait pas d'exemple qui montrait que c'était possible, et en fait que c'est possible, et même si on n'y arrive pas, c'est pas grave.
Quand tu parles d'exemple, c'est d'exemple de femmes dans la tech, d'exemple de gens tout court dans la tech.
Je pense les deux, si on se positionne il y a 8 ans, je ne sais même pas s'il y avait le Next 40, quoi. Je ne sais pas s'il y avait le French Tech 120.
Non, pas encore. Non, tout ça, c'est d'il y a moins de 5 ans, bien sûr. Ouais.
Tout cet écosystème... en fait, n'existait pas. Et donc, en fait, on ne savait même pas. À l'époque, moi, je regardais, je me disais, OK, qu'est-ce qui est possible? J'essayais pas de rêver.
Ça faisait pas partie du prisme. Exactement. Des possibles.
Exactement.
Et du coup, tu te dis quoi à la Morgane il y a 8 ans?
Continue, ça ira bien.
T'inquiète,
the show must go on, ouais. On est large, t'inquiète. Ouais.
Bon, je vois que t'es une optimiste, je pense. Je le résume bien.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il y a pas eu de claque dans la vie.
Bien sûr.
Et si tu veux bien, tu m'as promis zéro bullshit, alors on va partager ça.
Wow.
Même pas mal.
Pas mal. Claque, peu importe.
Ouais.
Le premier client qu'on perd quand on lance sa boîte, c'est très difficile. C'est des gens avec qui on a construit une relation, avec qui on parle depuis longtemps. Et ça, il faut juste se rappeler que c'est pas grave, en fait, qu'il y en aura d'autres qui arriveront, que, en fait, là, tant qu'on arrive à garder une bonne relation, c'était juste pas le bon moment, pas le bon timing, pas le bon fit, etc. Mais ça, c'est vraiment, en tout cas, dans notre vie, on a eu plein de différentes claques, mais je trouve que celle qu'on prend le plus à cœur, c'est celle des premiers clients perdus, quoi.
Ouais. Comment, il y a le comment on le gère dans la tête, mais surtout comment on le gère dans la relation, tu vois, pour rester, parce que effectivement, des fois, c'est un problème de culture ou c'est pas forcément qu'un sujet de delivery ou de.
Bien sûr. Première chose, c'est qu'on essaie de jamais surréagir. De facto, on réalise que, en fait, souvent, on surréagit à des événements et puis parfois, c'est juste comme ça, quoi. Il y a pas d'autre chose. Donc, pas surréagir. Surréagir, ça peut créer des tensions encore plus avec le client.
C'est vrai.
Demander du feedback. C'est des choses basiques, hein, mais faut pas oublier demander du feedback, demander ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et ensuite, continuer, en fait, la relation, bien sûr, moins proche, mais se dire, OK, le jour où on sera prêt à les servir, le jour où, etc., toujours, en fait, garder.
En faire un apprentissage. Et puis pas le prendre personnellement.
Non, bien sûr. Être transparent avec les équipes.
Ouais.
Proposer au client de dire aux équipes pourquoi il a pas décidé d'avancer. C'est important de se dire, que tout n'est pas gagné.
Ouais,
et que
c'est de l'humilité aussi.
Et c'est de l'humilité, bien sûr.
Et quand on pense qu'on a quand même fait le job,
on l'a pas fait. On l'a pas fait, ou c'est comme il y a de la chance, il y a le manque de chance aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'on l'a pas fait d'une manière ou d'une autre, quoi. Et on doit se remettre en question, mais on doit pas non plus se torturer sur le sujet, ouais. Quoi.
Show must go on.
Show must go on.
Je pense qu'on va titrer comme ça. C'est le moment où, en fait, le micro est à toi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, évidemment, en si peu de temps. C'est le moment de ta carte blanche, Morgane.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Et je raconte ce que je veux.
Ouais, ce que tu veux. Tu vois, c'est le moment où, auditeur de 40 nuances de Next, on vous ment.
Je raconte ce que je veux.
Ouais. Ça peut être l'expo de 3e en SVT qui n'est pas passé à la postérité, mais dont tu étais particulièrement fier.
Non, je pense un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est toute la manière dont on prend des décisions dans une boîte pour toujours servir le client. Et je trouve que c'est quelque chose qui, parfois, avec le temps, et nous, on le voit en étant client d'autres solutions, qui se perd, en fait. Les sujets internes priment sur l'intérêt du client. Et donc, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on devrait toujours faire attention à avoir dans les discussions au quotidien dans une boîte, dans tout, bien sûr, il y aura toujours des sujets internes, il y aura des sujets de process, etc. Mais de s'assurer...
Quel est l'intérêt pour le client ? Est-ce qu'on le tient ?
Exactement. Est-ce qu'on le tient ? Et
généralement, c'est l'ambition d'une boîte. Enfin, c'est de servir...
Mais finalement, on peut être vite pris par d'autres sujets qui n'ont en fait rien à voir avec l'intérêt du client. Et finalement, si on construit un besoin, si on construit un produit qui répond à un besoin d'un client... c'est déjà ça, quoi. Et c'est pas gagné, mais en tout cas...
Et comment on reste au plus proche de ce besoin, qui lui-même peut évoluer, et donc...
Exactement.
C'est nécessaire de se reposer régulièrement la question de ce qu'ils attendent de nous.
De se reposer, de leur parler souvent.
Ouais.
C'est souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est dans les boîtes qui grossissent, les head-off, etc., en fait, sont de plus en plus loin des clients. Et donc, c'est quoi les mécanismes, les process, etc., pour s'assurer d'avoir toujours ce contact ou... cette information.
Et alors, justement, on aime bien le pratico-pratique, le partage d'expérience. Vous mettez quoi en place chez Defacto pour conserver ce lien, ouais.
Déjà, en étant flat, ça aide. Mais aujourd'hui, tout le monde chez nous, donc même les ingés, a une relation client directe. Comme on travaille pas mal de développeurs, donc il y a zéro rôle qui sont internes. Ça, c'est un premier sujet. Donc, il n'y a pas de rôle qui sert que l'interne. Donc, tous les rôles ont sa contrepartie client d'une manière. Deuxièmement, en fait...
C'est pas mal aussi, même pour projeter des relations...
Bien sûr.
Au-delà des 15 personnes, aussi brillantes et sympathiques soient-elles.
Exactement. Tout le monde fait du care chez nous. Donc, tout le monde répond, on fait du support client. C'est une autre manière de s'assurer de toujours savoir ce qu'ils ont en tête. Et ensuite, c'est de manière assez proactive. On propose à tout le monde de venir souvent à des meetings, soit avec des prospects, soit avec des nouveaux clients. Mais donc, de jamais vraiment perdre ce lien, quoi.
Il y a des remontées comme ça, justement, de ce care que vous mettez en place. Vous dites, tiens, ça, on l'a jamais fait comme ça et on ne refera plus jamais de la même manière.
Les gens qui nous disent à nous...
Ouais, en interne... Là, en fait, via les clients, hein, encore une fois.
Dans les échanges, en fait, c'est assez rare d'avoir des ingés, une équipe ingés qui est aussi exposée aux clients. Souvent, il va y avoir des rôles entre deux qui vont pallier.
Or, sur une solution tech, souvent l'ingé est capable de savoir ce qu'il est aussi possible ou pas de
ou pas
faire.
De faire, ouais. Et bien sûr, de servir au mieux le développeur de l'autre côté. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié en interne. De vraiment, en fait, 30 à 40% du temps de nos ingés sont vraiment dédiés à de la relation client, quoi.
Est-ce qu'il y a un autre apprentissage avant qu'on se quitte que tu aimerais partager à tous les entrepreneurs qui nous suivent? D'ailleurs, certains déjà très bien installés et d'autres qui se lancent ou qui aimeraient se lancer.
J'enfonce une porte ouverte, mais je suis une grande pragmatique. Donc, je pense que c'est juste, parmi tous les problèmes, on oublie de se focaliser sur la base, quoi. Et la base, c'est le client et c'est les employés. Est-ce qu'en fait, les gens sont contents? Et les gens sont contents avec des, en fait, quand on les traite bien, on les traite de manière humaine, il n'y a pas besoin de créer des process, hyper compliqués, quoi. Genre, il faut pas juste oublier la base d'être d'humain entre eux et puis la relation client, quoi. Voilà.
Il suffit. Pas besoin de mettre un head-off pour être heureux.
Non, c'est même pas un head-off. Ouais. Non, c'est juste... on oublie le common sense, quoi.
OK. Eh bien, moi, je te nomme head-off Shomas Gohan chez Defacto et chez 40 Nuances de Next. Juste pour conclure, si tu avais dû choisir une femme entrepreneur pour te succéder, tu aurais choisi qui?
Stéphanie Bauker, une ancienne de Spendesk qui lance sa propre boîte. Comme ça, on continue avec...
Et tout le monde monte des boîtes chez Spendesk.
Tout le monde monte des boîtes. Et comme ça, on continue la tradition.
Tu annonces sa boîte?
Elle est en phase de se...
De se lancer?
De se rebrand, exactement.
Ah, OK.
Donc, mais elle se lance là, d'ici les prochaines semaines.
Quelle thématique?
Elle sur tout ce qui va être autour du produit et des ingés sur répartition des produits, des tâches, des projets sur tout ce qui est équipe product
organisation.
Manage. Exactement.
Eh ben, à suivre. Voilà. Merci beaucoup, Morgane Oana.
Merci.
À très bientôt.